avec Hélène Denis.
Avant-dernière journée de la semaine, bon jeudi, celui du 11 décembre 2025. Bonjour Mathieu.
Bonjour Hélène, bonjour tout le monde.
Et bonjour à Yvan qui est au bout du fil, ainsi que Monique au bout du fil. Bonjour.
Bonjour Hélène.
Bonjour Hélène.
Le vent s'est invité aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez ressenti ou vous êtes resté, vous êtes toujours à l'intérieur, Monique et Yvan? Vous n'avez pas eu à sortir ce matin?
Moi, je n'ai pas eu à sortir. Mais je vois qu'il s'est levé.
Oui, moi, je suis sorti. J'ai déblayé parce qu'il y a des gens qui viennent ce matin à la maison. Mais le temps est relativement doux malgré le vent.
Oui, on peut dire ça. Mais quand on marche longtemps, Mathieu a marché longtemps, puis à un moment donné, là, il y a des bourrasques, ça nous prend et ça nous fait avancer malgré nous. Hein, ça nous pousse. Au moins, ça nous pousse par en avant. Mais ça surprend. Et il faut quand même être prudent, là, qu'on soit piéton, qu'on soit cycliste ou automobiliste. La prudence est de mise. Alors, Monique, de quoi vous allez nous entretenir aujourd'hui?
Mais aujourd'hui, nous allons parler du cerveau, Hélène.
Ah, passionnant.
C'est un fonctionnement qui est assez complexe. Et bien sûr, des chercheurs neuroscientifiques s'y intéressent toujours. Il y a un article qui a retenu mon attention, qui a été publié dans la section Science du site Info de Radio-Canada. Et cet article expose les résultats de recherches qui ont été effectués à l'Université Cambridge. Et on y apprend, entre autres, Hélène, que le cerveau vivrait 5 phases d'évolution. Alors, cet article nous décrit ces phases.
Bon, alors, nous serons attentifs et à l'écoute autour de 9h45-46 avec vous. Yvan, vous parlez de sport organisé qui rendrait les garçons moins rebelles.
Oui, c'est le résultat d'une étude qui a été présentée cette semaine, mardi, sur le fait que les enfants en jeune âge, au primaire, entre 6 et 10 ans, c'est une fenêtre importante pour qu'ils fassent face à une représentation parentale qui ne vient pas de leurs parents. Et ça leur permettrait d'avoir des comportements moins oppositionnels plus tard dans leur croissance. Alors, on va regarder ça, surtout dans le contexte où maintenant les médias sociaux sont de plus en plus importants et la présence parentale est parfois suppléée par ce genre de médium-là. Mm-hmm. Et je vais rajouter, ça fait longtemps que je l'ai de côté, je vais faire le résumé d'un article, parce que c'est dans le même esprit. Le titre, c'est « Le sport qui m'a gardé à l'école ». Et on parle des effets des coupures de budget sur les programmes sportifs, particulièrement au cégep, qui pourraient avoir un effet sur le décrochage.
Merci, Yvan. Il y aura aussi la chronique Parasport avec Dominique Tremblay, la chronique Psychologie sociale en compagnie de Roxane de la Sablonnière. Son sujet aujourd'hui, l'effet spectateur. Pourquoi n'intervient-on pas toujours face à l'urgence? Grande question. Et la nouvelle est tombée il y a quelques minutes. Le gouvernement Legault reporte l'entrée en vigueur de sa controversée loi 2, adoptée sous Bayon, et l'amendera pour refléter l'entente de principe conclue avec les médecins omnipraticiens, dont le contenu demeure confidentiel. Et on commence avec une chanson, j'espère que ça vous fera plaisir, une chanson de circonstance et qui fait aussi partie de la bande-annonce du film « Deux femmes en or ». C'est Monique Lérac qui chante « Le vent de l'hiver ».
Un air plus triste que l'automne, il me nargue d'hiver. Je le déjoue et me presse de retourner à mon repère, où la chaleur, ma maîtresse, cherche à couvrir mon univers. mexicain. Dans le soleil de décembre qui me servait de baldaquin. Passe les jours, les nuits blanches, le vent jaloux se meurt au loin. On s'aime en cause, on s'aime encore, on se repose. On parle d'avenir, de plages et de vacances, de l'Asie, des souvenirs. Et sur le quai des partances, on rêve avant de s'endormir. Tourner ça sent l'Espagne, ouvrant grand les volets. Buvons aux chansons nouvelles, au rythme qui feront danser. J'ai rempli mon escarcelle, de quoi payer le temps passé. Dans ces cordages, je me sens tout comme un voyage. Le printemps s'est ancré et se poursuivra la fête bien au-delà du mois de mai. Le vent me monte à la tête, vive l'amour, vive l'été.
Ah, Le vent de l'hiver, une chanson de Monique Lérac.
Quelle voix et quelle interprète. Je remercie ma mère qui me l'a fait découvrir. On avait plusieurs de ses albums qui sont venus en quelque part chez nous, chez ma mère, dans son sous-sol. Et Mathieu, vous me disiez qu'à chaque fois que vous l'écoutez, vous vous dites, je la connais pas beaucoup, mais j'aimerais la connaître davantage.
Exactement.
Alors, il est jamais trop tard pour bien faire. À la une de la presse plus, crise au PLQ, acculé au mur, nouveau coup dur pour le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez. L'UPAC déclenche une enquête sur sa campagne à la direction et les appels à sa démission fusent. Un autre titre à la une de la presse plus qui nous réchauffe, le Cirque du Soleil replonge, la genèse de Ludo, nouveau spectacle aquatique présenté dans un théâtre conçu sur mesure au Mexique. Et Ludo, ça s'en vient, la première aura lieu demain vendredi. Ensuite, un quasi-monopole sur des médicaments très chers, pharmacie indépendante, un dossier, une enquête même d'Ulysse Bergeron. 5 pharmacies indépendantes se partagent 40 % du lucratif marché québécois des médicaments de spécialité, dont la valeur gravite autour de 1,5 milliard. Chaque ordonnance de ces molécules onéreuses pour traiter certains cancers et maladies rares leur apporte des milliers de dollars en honoraires. Une compagnie d'assurance se tourne vers l'ordre des pharmaciens pour briser ce qui a les allures d'un oligopole susceptible de faire grimper les primes de tous les assurés. À la une du Devoir, une photo d'un grand photographe de presse, le photographe Jacques Nadeau, en couverture du Printemps érable à Montréal le 18 mai 2012. Jacques Nadeau, l'intrépide, la longue marche du photojournaliste vedette du Devoir s'est arrêtée mercredi. Le réputé photoreporter Jacques Nadeau est mort mercredi à Montréal d'un cancer généralisé. Avec ses appareils photo en bandoulière et sa cigarette au bec, ses jeans élimés, ses bottes de cow-boy et sa chemise ouverte, il conservait sa dégaine inimitable, même arrivé à l'âge où sa tête était devenue chenue. C'est Jean-François Nadeau qui écrit ce texte. Jacques avançait toujours à grande enjambée, ne se pliant d'office à aucune consigne, photographiant le monde à sa manière. Si tu es prêt à accepter des ordres, à tout écouter ce qu'on te dit de faire, change de métier, disait-il dans une ultime conversation dans sa chambre d'hôpital. Il était âgé de 72 ans. Il y a plusieurs de ses photos qui sont publiées dans Le Devoir d'aujourd'hui. J'ai eu l'honneur, vous vous souvenez, Mathieu, on l'avait rencontré.
Oui.
Il nous avait donné presque des cours de photos. Oui, regardez en l'air pour vous donner un beau genre et faire en sorte que vous passiez bien devant la lentille. Il était venu ici, c'était à l'automne 2024, pour la parution de son livre Vénérable, magnifique livre de photos avec Kim Yaroshevskaya, la regrettée Kim Yaroshevskaya, qui était en page couverture. Alors, on offre nos condoléances à tous ceux et celles qui l'ont connu et qui l'ont aimé. Et puis, je termine avec la une du Journal de Montréal. L'étau se resserre sur Pablo Rodriguez avec l'arrivée de l'UPAC, enquête criminelle sur sa course à la chefferie. De plus en plus de libéraux demandent le départ de leur chef. Rémi Nadeau écrit une position intenable pour lui. Antoine Robitaille, le chef du PLQ, doit partir.
Frosted window panes, candles gleaming inside, painted candy canes on the tree, Santa's on his way, he's filled his sleigh with things. Things for you and for me. It's that time of year when the world falls in love. Every song you hear seems to say Merry Christmas. May your New Year dreams come true. Song of mine in three-quarter time wishes you and yours the same thing too. It's the
il y a un petit problème avec mon système. Je suis désolé, c'était la chanson de Christmas Waltz de Nancy Wilson.
Ouais, ça a fini comme en queue de poisson.
Oui, c'est que de dire.
Désolé, Nancy. Nancy Wilson, qui a une très, très belle voix. Elle aussi. Je pensais que c'était Dinah Washington la première fois que je l'ai entendue, mais non, c'est Nancy Wilson. On va essayer de réparer la situation, puis peut-être, pas la faire tourner aujourd'hui, là, mais une autre fois. Et pour tout de suite, c'est la chronique de Monique Kirouac. Monique, vous êtes toujours là?
Je suis toujours là, oui.
Alors, sur iciradiocanada.ca, vous avez trouvé un bel article, surtout très intéressant. Le cerveau passe par 5 grandes phases au cours d'une vie.
Oui, et ça a été rédigé par Alain Labelle, Hélène.
Oui.
Le 30 novembre dernier. Alors, il nous dit que les réseaux de neurones de notre cerveau ne font pas que se développer et décliner durant notre vie. Il semblerait qu'il se réorganise au fil d'une série de stades bien distincts. Des réorganisations majeures se produisent dans le cerveau autour des âges de 9, 32, 66 et 83 ans, créant ainsi 5 périodes de câblage des neurones au cours d'une vie humaine, et c'est ce qu'affirment des neuroscientifiques britanniques de l'Université de Cambridge qui ont publié un article dans la revue Nature Communications. Alors, cette étude est la première à identifier les phases majeures du câblage cérébral sur la durée d'une vie. Et c'est ce que nous indique Alexa Mousley, qui est doctorante en sciences de la cognition et du cerveau à l'Université Cambridge et qui est l'une des auteurs de l'article. On savait que le câblage du cerveau était crucial pour notre développement, mais il manquait une vue d'ensemble de la façon dont il change au cours de nos vies et pourquoi. Le professeur Martin Parent, qui est du Centre de recherche cerveau, je vous épellerai ce terme, CERVO, associé à l'Université Laval, il n'a pas participé à l'étude, mais il trouve ses résultats fort intéressants. Jusqu'à maintenant, on voyait le développement du cerveau de façon relativement linéaire. Mais cette étude montre plutôt qu'il connaît des périodes plus critiques et des points tournants. Pour en arriver à cette nouvelle compréhension de l'évolution du cerveau, l'équipe britannique a comparé les données d'imagerie par résonance magnétique, ce qu'on appelle un IRM, des cerveaux, de 3802 personnes âgées de 0 à 90 ans. C'est grâce à la mise en commun de données brutes par plusieurs institutions que les chercheurs ont pu obtenir cet échantillon intéressant, nous explique le professeur Parent. Ensuite, les chercheurs ont harmonisé les données qui provenaient de plusieurs centres parce qu'elles provenaient de différents appareils, ce qui résulte en 5 phases générales de la structure cérébrale. La première phase, que l'on appelle l'enfance, va de la naissance à 9 ans. La deuxième phase, l'adolescence, va de 9 ans à 32 ans. La troisième phase, l'âge adulte, de 32 à 66 ans. La quatrième phase, le vieillissement précoce, de 66 à 83 ans. Et finalement, la cinquième phase, le vieillissement tardif, après 83 ans. On peut peut-être s'étonner, Hélène, de la catégorie adolescent jusqu'à 32 ans, mais ça va nous être expliqué.
OK. Malgré que je connais des adolescents qui ont 53 ans.
Mais ça, c'est pas mauvais quand on se dit « Ah, oh, je suis comme une adolescente encore » ou « Je retombe en enfance » parce qu'on a un peu de folie encore en nous, n'est-ce pas?
Ça dépend, hein, parce que l'adolescence, ça ratisse large et ça nous fait faire plein de choses, des bonnes et des moins bonnes.
C'est vrai, c'est vrai. Il y a toutes sortes d'attitudes hein, qu'on développe dans cette période-là. Alors, revenons aux choses sérieuses, Hélène. La topologie du cerveau de l'enfance. Alors, ça s'étend, comme on le disait, de la naissance jusqu'à un tournant à l'âge de 9 ans. Durant cette période, les connexions cérébrales se consolident. Par exemple, le nombre de synapses, c'est-à-dire des zones de contact entre deux neurones, est en excès chez le bébé. Puis se réduit pour ne garder que les plus actives. À 9 ans, le cerveau connaît un changement radical de capacité cognitive, ce qui mène à la phase de l'adolescence. C'est un stade qui dure en moyenne jusqu'à l'âge de 32 ans. Selon le professeur Parent, la longueur de cette période confirme l'idée selon laquelle le cerveau prend plus de temps qu'on pensait avant de maturer complètement.
Oui, oui.
J'imagine qu'avec le temps, on va peut-être distinguer ce qui se passe chez le sexe masculin et le sexe féminin aussi, hein, parce qu'on sait que les jeunes garçons maturent un peu plus lentement. Mais enfin, ça, c'est une note de Monique, là, c'est pas dans l'article.
Un autre sujet.
Oui, c'est ça. Ce développement atteint son apogée au début de la trentaine en moyenne, ce que les chercheurs appellent le tournant topologique le plus fort d'une vie humaine. Alors que la puberté offre un début clair, la fin de l'adolescence est beaucoup plus difficile à définir scientifiquement. En se basant uniquement sur l'architecture neuronale, les chercheurs ont constaté que les changements de structure cérébrale de type adolescent se terminent vers le début de la trentaine. Ensuite, le câblage neuronal du cerveau passe en mode adulte, la phase la plus longue qui dure plus de 3 décennies. Bien, durant cette période, l'architecture cérébrale se stabilise par rapport aux phases précédentes sans changement majeur pendant 30 ans. Ça correspond à un plateau dans l'intelligence et la personnalité, nous expliquent les chercheurs. Puis, un troisième moment se produit autour de 66 ans et marquant alors le début d'une phase de l'architecture cérébrale que les scientifiques qualifient de vieillissement précoce qui dure jusqu'à 83 ans. Rassurez-vous, ce tournant est beaucoup plus doux, expliquent les chercheurs, et n'est pas défini par des changements structurels majeurs, même si certaines transformations significatives se produisent dans les réseaux cérébraux autour de cet âge. On savait qu'il existait des périodes critiques dans le développement comme l'enfance et l'adolescence, nous fait remarquer le professeur Parent. L'étude montre que d'autres périodes au cours du vieillissement sont aussi des points tournants importants, et c'est ça qui est nouveau. Les données laissent à penser qu'une réorganisation progressive des réseaux cérébraux culmine au milieu de la soixantaine, affirme la chercheuse Alexa Mousley, qui, comme on l'a dit précédemment, a participé à la rédaction de l'article dont on nous parle. Ceci est probablement lié au vieillissement, avec une connectivité réduite à mesure que la matière blanche commence à dégénérer. C'est un âge où les gens font face à un risque accru de divers problèmes de santé qui peuvent affecter le cerveau, comme l'hypertension. Le dernier tournant se produit autour de l'âge de 83 ans. Les données pour cette période sont plus limitées, mais elle est caractérisée par un déclin de la connectivité de l'ensemble du cerveau. Savoir que l'évolution du cerveau n'est pas une question de progression constante, mais plutôt ponctuée de quelques tournants majeurs, pourra certainement aider à revoir notre compréhension de certaines conditions liées à des défauts de connectivité dans le cerveau. Ces travaux pourraient, entre autres, permettre de cerner pourquoi le cerveau se développe différemment à certains moments de la vie, qu'il s'agisse de troubles de l'apprentissage pendant l'enfance, de la schizophrénie à la fin de l'adolescence ou de la démence plus tard dans le vieillissement, ajoute le professeur Parent. Sûrement des recherches qui se poursuivront, Hélène, et qui vaudra la peine pour nous de suivre, parce qu'on est bien curieux de bien comprendre justement le fonctionnement de notre cerveau et de son évolution. Mais on sait que si on adopte des bonnes habitudes de
comme
vie,
toujours,
ça peut nous aider à garder en vie ces connexions qui se dégradent.
À rester adolescent plus longtemps?
Pardon?
Rester adolescent plus longtemps?
Peut-être. En tout cas, c'est à suivre, certainement.
Prenons soin de notre architecture cérébrale.
C'est beau, hein?
Oui, j'adore.
J'aime mieux ça que le câblage.
Aussi.
Qui sont passés devant, j'ai percé mes paupières.
Clopelgag, les ferrofluides fleurs.
Mathieu, est-ce que vous aimez la cuisine italienne?
Dès qu'il y a du parmesan, j'adore.
Pâtes fraîches, sauces savoureuses, huile d'olive, artisanale. La cuisine italienne a été inscrite mercredi au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, une première mondiale pour un pays qui devrait encore accroître l'attractivité touristique de la péninsule. La candidature italienne soumise en 2023 figurait parmi les 68 dossiers examinés de mardi à jeudi par un comité de l'organisation onusienne réunie à New Delhi, qui a aussi reconnu la fête indienne des Lumières Diwali. Cette reconnaissance honore qui nous sommes et notre identité, s'est réjouie la première ministre Giorgia Meloni. Vive la cuisine italienne! Il y a aussi le yodel, ou yodel, qui est un chant vibrant de berger des Alpes, qui est devenu, avec le temps, un emblème des traditions helvétiques, a été inscrit aujourd'hui, jeudi, au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. On a-tu du yodel, Mathieu? Je vous demande ça, là, comme ça, vite, vite. Réuni à New Delhi, en Inde, l'UNESCO inscrit le yodel sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est ce qu'a annoncé l'Office fédéral suisse de la culture. Le yodel est aussi pratiqué en Autriche et en Allemagne, mais alors que la Suisse s'était alliée à la France pour faire reconnaître la tradition horlogère de l'arc jurassien en 2020, elle avait cette fois fait cavalier seul pour cette candidature. Il y a aussi au Québec où on entend du yodel.
Mais c'est drôle parce que Richard va.
Là, c'est pas du yodel, c'est
non,
du piano.
Non, c'est pas du yodel, non. Non, je n'ai pas trouvé aussi.
Non, mais là, on faut pas croire au miracle.
Margaret Tracteur.
Elle yodel.
Elle yodel sur une de ses chansons, elle est très bonne.
Est-ce qu'on va l'entendre en fin de semaine?
Oui, Colt la reçoit pour L'Homme en noir.
Margaret Tracteur, un nom original. J'imagine que c'est son nom d'artiste.
Oui.
Oui. Elle va offrir un spectacle aussi à Noël dans le parc, un événement là, qui revient d'année en année. Elle va chanter le 20 décembre à 19h, si ça vous intéresse. Vous allez l'entendre, yodelé, j'imagine bien. À venir, Yvan Deslauriers, sa chronique.
Vous pouvez vous écouter au quotidien avec Hélène Denis.
L'hiver a pris son allure habituelle. La poudrerie danse dans la ruelle. Les étincelles embrasées dans la cheminée chantent pour elle. Petits espoirs émerveillés, aux yeux brillants se sont couchés, trichant le ciel d'un coup d'œil. Voir enfin Noël, voir qui vient porter. Tous les beaux cadeaux, surtout surprendre le Père Noël. Et si vraiment son traîneau plane sur la Voie lactée, tous les vœux sont déjà tellement usés que je ne sais plus par où commencer. Soyez heureux et toujours amoureux, de 1 à 100 ans mes souhaits de bonne année. La poudrerie danse dans la ruelle, les étincelles embrasées dans la cheminée chantent pour elle. Petits espoirs émerveillés, aux yeux brillants se sont voie lactée. Tous les vœux sont déjà tellement usés que je ne sais plus par où commencer. Soyez heureux et toujours amoureux. De 1 à 100 ans, mes souhaits de bonne année. Le plus beau Noël. Le plus beau Noël.
Claude Dubois et sa chanson « Cadeau ».
Oui, ça nous ramène à une époque. On entend cette musique des années, quoi, 80-90?
Oui, exactement.
Dans ces eaux-là. Alors, Yvan Deslauriers, c'est à vous. Partagez avec nous votre texte que vous avez trouvé dans la Presse Plus, comme souvent, sous la plume, cette fois, de Mathieu Perrault.
Exactement, c'était dans la Presse Plus d'hier. C'est une étude scientifique, là. Je suis un petit peu dans la taille de Monique, je m'en excuse. Ça dit « Le sport organisé rendrait les garçons moins rebelles ». Et il semblerait que pratiquer un sport organisé au primaire réduirait les comportements oppositionnels chez les garçons, selon une nouvelle étude montréalaise. Ces résultats sont particulièrement intéressants à l'heure où les réseaux sociaux exposent les enfants aux influences du monde entier. Alors, selon l'étude qui a été préparée par Linda Pagani, qui est de l'Université de Montréal, elle a publié ses résultats mardi dans la revue European Child and Adolescent Psychiatry. Pardon pour la prononciation en anglais.
Je vous en prie.
Ça dit que l'âge de 6 à 10 ans est une fenêtre très importante, selon elle, parce que les parents ont encore de l'influence, d'après elle. Il faudrait poser la question aux parents. Les enfants n'ont pas trop de devoirs, donc il est très important d'en profiter pour qu'ils accumulent d'autres acquis par des activités parascolaires. Les garçons qui pratiquent un sport organisé au primaire sont exposés à une figure d'autorité non parentale, souligne la psychologue montréalaise. À l'adolescence, quand ils cherchent d'autres modèles que leurs parents, cette expérience de sociabilisation va leur permettre de privilégier des adultes qui sont de bons modèles, selon eux. L'étude n'a pas permis de faire le même constat pour les filles. Elle dit « Au début de l'adolescence, ce sont les garçons qui ont des problèmes d'opposition et de désobéissance face à l'autorité. » C'est une moyenne, évidemment. Il y a des filles qui, parfois, sont plus désobéissantes que des garçons, mais selon la moyenne, ce sont les garçons qui ont davantage vivent cette situation-là. À 12 ans, par exemple, au début de l'adolescence, les filles ont plus de problèmes intériorisés, selon elle, comme l'anxiété ou les troubles alimentaires, que les garçons. Le sport organisé au primaire pourrait aussi être bénéfique face à ces problèmes parce qu'il améliore les capacités de concentration des filles, selon d'autres études, et leur permet donc de porter leur attention sur les aspects positifs de leur vie, toujours selon la chercheuse. Ces résultats sont basés sur une étude faite avec des enfants nés en 1997 et en 1998. Donc, c'est des enfants qui ont maintenant, quoi, 27 et 28 ans. Mm-hmm. On se demande dans l'article, les résultats sont-ils encore valides? Et elle nous répond que c'est la dernière génération dont on a pu dire qu'elle a vécu une enfance, en guillemets, innocente. C'est-à-dire où les parents pouvaient être totalement les gatekeepers, les pourvoyeurs, les gardiens de l'accès au monde extérieur durant l'école primaire. Maintenant, les médias sociaux proposent de multiples autres sources d'inspiration et d'autorité sans que les parents puissent beaucoup contrôler ces influences. Selon Linda Pagani, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, il est encore plus important que les jeunes fassent du sport organisé au primaire. Et les parents devraient profiter du fait qu'ils ont encore de l'influence sur leurs enfants de l'âge de 6 à 10 ans pour les inciter à participer à de tels sports qui peuvent renforcer leur résistance à l'influence des réseaux sociaux. La chercheuse a lancé cette étude lors d'un séjour à l'Université de Pavie, en Italie, où étudiait aussi l'auteur principal Matteo Privitera, un Calabrais. Matteo faisait son doctorat et avait une expérience d'enseignement à l'école, selon Mme Pagani. Quand j'ai demandé quelles questions on devrait étudier, il a tout de suite pensé au problème de comportement oppositionnel des garçons de 10 à 12 ans. Dans l'étude, les garçons étaient comparés aux garçons et les filles aux filles, selon qu'ils faisaient ou non du sport organisé avec d'autres enfants. Les comportements à 10 et 12 ans étaient autodécrits par les enfants. L'étude s'est penchée sur une cohorte de plus de 2000 enfants québécois nés en 1997 et 1998. C'est la génération juste avant les médias sociaux, selon Mme Pagani. C'est très différent. La seule influence externe était la télévision. Mes enfants ont cet âge-là. Maintenant, avec le téléphone, les enfants ont des influences de partout dans le monde. Les parents ont moins de contrôle. D'autres études de Linda Pagani et de ses étudiants à la maîtrise et au doctorat sur la même cohorte ont montré d'autres bénéfices du sport organisé au primaire, comme de meilleures notes au secondaire, des relations sociales moins conflictuelles et moins de problèmes de santé mentale, notamment moins de détresse émotionnelle chez les garçons à 12 ans. Il y a aussi un lien avec les écrans. Les enfants ayant eu plus de restrictions à leur temps d'écran à l'âge de 2 ans faisaient plus de sport organisé au primaire. Alors, que pense Linda Pagani du récent débat aux États-Unis sur l'importance que les garçons se retrouvent entre eux dans certaines circonstances, par exemple dans les sports? Selon elle, ça fait des millénaires qu'à différents moments charnières de la vie, les gens se retrouvent pour des activités selon leur sexe à la naissance. Cela dit, dans notre étude, il n'y avait pas de questions sur le sport mixte ou unisexe. À cette époque, les filles et les garçons jouaient séparément au soccer, par exemple. Et il y avait peu de garçons dans les cours de patinage artistique. Les cours mixtes étaient plus pour les sports individuels comme les arts martiaux. Elle le sait parce qu'elle est ceinture noire en karaté. Donc, c'est quand même une étude intéressante qui met un accent sur l'importance que les jeunes, particulièrement les garçons, puissent faire du sport organisé au moment de leur primaire. Il semble que ça peut avoir une influence importante jusqu'à leur secondaire. Donc, c'était dans un article de la presse d'il y a 2 jours, de mardi.
Et vous vouliez ajouter aussi un commentaire, c'est-à-dire un autre texte qui fait la démonstration que le sport, c'est bon pour la santé émotionnelle, à propos de Christopher White, qui est un élève au Collège Montmorency et joueur de football.
Exactement. C'est un texte qui est paru toujours dans la Presse Plus le 17 novembre sous l'écriture de Léa Carrier. Et il dit, M. Christopher White, il dit « C'est le sport qui m'a gardé à l'école ». Et c'est un article qui parle des restrictions budgétaires dans les cégeps. Et ça dit que des cégeps ont sabré à contre-cœur leur programme sportif cet automne. En fait, on parle des cégeps, mais il me semble qu'en même temps, on parlait aussi des programmes à l'Université McGill. Il y a des programmes sportifs qui ont été, arrêtés aussi. Donc, forcés de réduire leurs dépenses en raison des restrictions budgétaires imposées par Québec, le sport étudiant est pourtant un important levier pour la réussite scolaire, rappellent les établissements. Et on revient à Christopher White qui disait que je n'étais même pas censé aller au cégep. Et maintenant, je finis mon programme et je vais à l'université. Nous dit-il, rempli de fierté. Pour parler de l'importance du sport collégial, il n'y a pas de meilleur interlocuteur que lui. L'élève de 20 ans ignore où il serait aujourd'hui s'il n'avait pas été recruté par l'équipe de football du Collège Montmorency, mais assurément pas au cégep. C'est ce qui le peine le plus dans le fait que des élèves pourraient ne plus pouvoir pratiquer leur sport en raison des restrictions budgétaires imposées au réseau collégial. Parce que pour lui, c'est le sport qui l'a gardé à l'école. Au cégep Montmorency, il y a deux équipes qui ont été supprimées, soit l'équipe de golf et l'une des deux équipes de badminton. Ils ont essayé de choisir des programmes où il y avait le moins d'inscriptions pour qu'il y ait le moins d'effets possible. Il y a tous les cégeps à qui ont été approchés lors de cet article-là ont dit de façon catégorique, si les restrictions budgétaires se poursuivent l'an prochain, les conséquences pour les élèves seront beaucoup plus importantes. Et là, on parle entre autres de si on essaie de maintenir en augmentant les frais pour la participation à ces équipes-là. Évidemment, ceux qui ont de la difficulté avec leur budget se verraient un petit peu mis de côté. On finit par noter les bénéfices sur la réussite scolaire. Au Québec, près de 12 000 élèves du réseau collégial font partie d'une équipe sportive. Selon le réseau des sports étudiants en 2023-2024. Plusieurs études ont démontré les bienfaits de la pratique du sport sur la réussite scolaire. Elle augmenterait la motivation, la persévérance et le sentiment d'appartenance au groupe et à l'établissement d'enseignement. Je reviens à Christopher White, qui étudie en gestion du commerce. Il a beaucoup bénéficié du soutien aux études offertes par son cégep. Il a même reçu des offres de plusieurs universités qui souhaiteraient le recruter dans leur équipe de football. Alors pour lui, le sport, ça n'a pas été juste le fait de jouer, c'est sa source de motivation principale. Alors on voit dans le premier article l'importance que des jeunes au primaire s'inscrivent à des activités sportives, en particulier pour avoir une présence parentale qui ne vient pas de leurs parents. Surtout dans un monde où les médias sociaux sont de plus en plus omniprésents. Et on voit à l'autre bout du spectre, vers le cégep et l'université, l'importance que revêt quand même les équipes sportives pour maintenir des jeunes accrochés à leurs études et de créer des citoyens vraiment impliqués dans leur environnement.
Pour paraphraser Louise Forestier qui chantait « Ne touchez pas à mon piano, ne touchez pas à nos programmes sportifs, s'il vous plaît ».
Oui, mais en même temps, quand on a des coupures à faire, et maintenant, il faut couper quelque part, là, ça, je comprends très bien ce bout-là, mais il faut saisir l'importance des équipes sportives. C'est pas juste quelque chose de marginal.
Oui, parce qu'au bout du compte, le prix à payer est encore plus élevé.
C'était le fils du Père Noël, j'étais la fille du Père Noël.
Jacques Dutronc doit être content de cette version de Clara Luciani, la fille du Père Noël.
Oui, tout à fait. Merci, Mathieu. Devrions-nous tous nous coucher plus tôt, Monique?
Eh bien, oui, Hélène. Et même les couche-tards devraient le faire. Alors, les spécialistes recommandaient jusqu'à présent à chacun de suivre son chronotype pour aller bien. Bien, c'est une nouvelle analyse du sommeil de 74 000 Britanniques qui vient de montrer le contraire. La santé s'améliore chez tout le monde dès qu'on se couche assez tôt, jusqu'à l'incidence des maladies cardiovasculaires, respiratoires, du diabète et de l'obésité qui diminue sur le long terme. Et à cet effet, a été révélé aussi chez les couche-tards dès qu'ils vont au lit une heure plus tôt. C'est pas énorme, ça. Alors, vers 1 heure du matin en moyenne, au lieu de 2 heures, comme ils en avaient l'habitude. Alors, dormir 1 heure plus tôt pour les couche-tards aurait un effet aussi bénéfique sur leur santé. Je ne sais pas si vous êtes une couche-tard, Hélène.
Oui, je suis plutôt une couche-tard qu'une couche-tôt, mais étant donné que je dois me lever très tôt, je fais des efforts pour dormir avant minuit au moins.
Ah ben, c'est déjà bien, là, parce que là, on parle de en moyenne 1 heure du matin, alors au lieu de 2 heures. Ben, peut-être si vous vous couchez en 11 heures au lieu de minuit, ben ça va faire une différence
oui.
pour vous, je sais pas.
Vous, Monique, je pense que vous êtes une couche-tôt, hein?
Bon, moi, oui, mais je me lève très tôt aussi. Hein.
Oui, bien souvent, ça va ensemble.
J'ai changé mes habitudes, je me réveille à 5 heures.
Oh, c'est très tôt, ça, 5 heures.
Oui, oui, oui.
Yvan, couche-tôt, couche-tard?
Ah, moi, c'est couche-tôt, couche-tôt. Surtout quand le Canadien joue un mauvais match, là, ça m'encourage à me coucher tôt.
Oui, de ce temps-ci, vous vous couchez pas mal tôt, j'imagine.
Oui, c'est ça. Puis je sais que vous couchez tard, si je me fie à l'heure où vous m'envoyez des courriels parfois.
Ah, il n'y a pas d'heure. Mais je pense que je me garde une petite gêne au-delà de minuit, non? Oui, hein?
Ah, ça ne dérange rien hein, pour un courriel. Si je dors, je vais l'avoir quand je vais me lever le lendemain matin. Hein.
En autant que vous mettiez à off, si je peux me permettre, les notifications.
Ah, oui, ça c'est sûr.
Alors, une brève avec vous, Yvan.
Une brève un petit peu longue, vous allez voir. Je parle souvent de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain et j'ai un témoignage ici, une personne qui a fait sa première randonnée, c'était samedi dernier au Chute Wilson. Et elle nous dit, arrivée sur place, sous une petite neige floconnée, je distingue un immense chalet. C'était le lieu de rencontre. Rentrée à l'intérieur, j'entends des bonjours ici et là. Tout le monde se connaissait ou presque. Je constate que le chalet est tout équipé, tout y est, super endroit. Sans perte de temps, nous sommes séparés en 2 groupes et je suis associé aux marcheurs rapides. Pas certaine d'être capable de s'en faire de chute. Ma guide, Marisol, m'explique ce qu'elle voit, m'approche avec bienveillance des sculptures cachées sous un petit couvert de neige, me fait remarquer les installations d'une ancienne pulperie, me parle du petit train du Nord. Où est passé le froid qui me faisait peur la veille? Au contraire, j'ai chaud. Je me plais à recevoir de légers flocons sur mes joues. Quel bonheur! Les sentiers étaient bien balisés et Marisol me permettait, en toute sécurité, de m'approcher de la rivière. Le bruit de l'eau de la chute, comme le cri des canards au départ de la randonnée, m'ont plu vraiment beaucoup. Que dire de plus que j'aurais dû me décider bien avant? Les gens étaient bienveillants et cordiaux. Cet endroit était parfait. Même la température était au rendez-vous. J'ai bien hâte à la prochaine sortie de randonnée. C'est une Mme Linda Plante, qui est nouvellement membre, qui nous raconte un peu son histoire. Je l'ai résumé. Alors, donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Il y a plein d'activités, et en particulier pour l'hiver. Des marches un peu partout.
Merci du rappel. Monique, le cœur des arbres a-t-il un microbiome?
Oui, on parle beaucoup hein, du microbiome, Hélène.
Oui, microbiote, alors, microbiome.
Sous l'écorce, à l'intérieur de son bois, un arbre hébergerait jusqu'à 1 000 milliards de bactéries, parce que les microbiomes sont faits de bactéries. L'analyse de leur ADN, extrait de 160 âmes représentant 16 espèces, a révélé que cette vaste communauté n'a rien de commun avec le microbiome des racines, toujours de ces 16 espèces-là, et de leurs feuilles. Le microbiome qui colonise le cœur serait même inhérent aux arbres, et les biologistes sont convaincus qu'il joue un rôle clé encore méconnu dans les cycles du carbone et de l'azote des forêts.
C'est tout. Fin.
Excusez, voilà. Vous auriez aimé en savoir plus?
Non, c'est parce que je me demandais, j'étais en train de chercher la différence entre microbiote et microbiome.
Ah, mais je pense qu'un inclut l'autre. Un est plus générique que l'autre. Mm-hmm.
Le terme microbiote est suivi du nom de l'environnement dans lequel il se trouve. Par exemple, le microbiote intestinal fait référence au microbiote présent dans les voies intestinales. Le microbiome fait référence à l'ensemble des gènes hébergés par des micro-organismes, ce que l'on appelle le théâtre d'activité. Après l'architecture cérébrale, le théâtre d'activité.
Ben oui.
Yvan?
On est littéraire, poétique, c'est vraiment bien en ces temps des fêtes.
Ah oui, c'est tout à fait poétique, comme vous le dites si bien, ça nous inspire. Et vous, Yvan, qu'est-ce que vous avez à nous dire de bon, là?
Dans le site Espace, la température est vraiment belle pour ce qui est des sports de glisse et en particulier du patinage. Et vous allez trouver un article qui a été écrit le 7 février 2025, donc ça fait presque un an maintenant. Description de 7 sentiers glacés magiques ou patinés de nuit au Québec. On passe de la Mauricie à l'Outaouais, aux Laurentides, etc. Je pense que la température est excellente pour ce genre d'activité-là. Alors, allez jeter un coup d'œil.
Parfait. Et en quelques secondes, ben une minute, là, Monique, le mot « enjeu » est-il utilisé dans le bon sens?
Ben écoutez, vous interrogiez, hein, n'est-ce pas, sur peut-être la surutilisation, mais c'est qu'il a différents sens, ce mot. D'abord, on emploie le mot enjeu pour désigner une somme d'argent ou un objet que l'on risque dans un jeu et qui revient à la personne qui gagne. On pourrait donner comme synonyme une mise. Également, depuis longtemps, enjeu a acquis le sens figuré de ce qu'on peut gagner ou perdre dans une action que l'on entreprend dans le cadre d'un projet, d'une lutte ou d'une activité ou d'une une compétition. Par extension, enjeu est venu à être utilisé au sens de préoccupation majeure, de problème d'importance, de question à résoudre qui est au centre d'un débat ou d'un domaine. Selon certains ouvrages de traduction, cette extension de sens pourrait venir du fait que l'on rend souvent le mot anglais « issue », fort polyvalent, par « enjeu » en français. Par ailleurs, « enjeu » revêt une connotation moins péjorative que « problème » ou « préoccupation ». Il sous-entend aussi la mise en place d'actions que défis. Alors, Hélène, vous aviez raison, on l'utilise beaucoup, mais il a beaucoup de sens.
Alors, j'ai un enjeu, il reste 4 secondes. Je vous dis au revoir, merci beaucoup d'avoir été là.
Au revoir.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et c'est l'heure de la chronique Parasport avec Dominique Tremblay. Bonjour Dominique.
Bonjour Hélène, comment allez-vous?
Ça va, et vous?
Oui, papa. Une chose que je voulais mentionner là, avant qu'on attaque les sujets que je vous ai proposés aujourd'hui, vous m'avez envoyé un courriel il n'y a pas très longtemps là, qui parle de volleyball en fauteuil roulant.
Mm-hmm.
Je trouvais ça intéressant comme sujet parce que la plupart du temps de mes chroniques, on parle de parasports, de sports qui sont aux Jeux paralympiques, mais il y a plein d'autres activités qui sont offertes pour les personnes en fauteuil roulant ou les personnes handicapées en situation de handicap. Et un bon exemple, l'Association régionale de loisirs de Chaudière-Appalaches, dans la région de Québec, est à la recherche d'un joueur de volleyball en fauteuil roulant pour avoir plus de participants, puisqu'une dizaine de joueurs se regroupent une fois par mois là, dans un centre communautaire de la région pour pratiquer leur sport. Le volleyball en fauteuil roulant n'est évidemment pas un sport paralympique, mais l'important, c'est pas d'être toujours à la recherche de cette médaille-là, mais c'est ce qui est surtout important, c'est de bouger et d'être actif. Ça aide tout le monde à être en meilleure santé. Donc, je vais vous remercier pour ce petit courriel ce matin.
Et merci de l'avoir partagé avec nos auditeurs et auditrices, cher Dominique.
Ça fait plaisir.
On y va avec les Jeux paralympiques de Milan-Cortina qui auront des retombées positives pour les personnes en situation de handicap, les personnes italiennes handicapées.
Oui, bien, on critique souvent les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques qui coûtent extrêmement cher à organiser aux citoyens là, du pays, avec l'augmentation de taxes ou d'autres choses. Puis on parle souvent bon, de milliards de dollars en frais de construction, de rénovation. Mais les Jeux olympiques, et en particulier paralympiques, ont une énorme retombée pour la ville haute ou pour d'autres événements sportifs, par exemple les différentes villes qui accueillent, par exemple, la Coupe du monde de soccer. Mais pour les Jeux paralympiques de Milan, qui vont commencer là, dans 3 mois, la ville a adapté toutes les stations de métro de la ville pour que les personnes puissent se promener facilement dans la ville. Évidemment, les sites de compétition sont accessibles aux personnes en situation de handicap, évidemment, puisque c'est pour les Jeux paralympiques et c'est la clientèle cible, les athlètes. Mais ils ont aussi rénové les stations de train pour que les gens puissent continuer à se promener. Et ils ont aussi rénové un peu que l'équivalent là, du Colisée de Rome, mais à Milan, donc qui date de plus de 2000 ans. C'est là que vont se tenir les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques. Et ils ont rénové cette place-là pour que les personnes en fauteuil roulant et les personnes handicapées puissent assister aux cérémonies d'ouverture. Donc, je trouve que ça bien. Et puis, depuis le début des années 2000, les villes hautes et les comités organisateurs portent une attention importante à ça. J'ai vécu ce genre d'expérience-là pour les Jeux paralympiques de dessiner mes deuxième Jeux paralympiques en tant qu'athlète. On était allé visiter, en fait, une compétition là l'année d'avant à Sydney, en Australie, et la station principale de train était pas vraiment... Elle était accessible, mais il fallait passer là pour... par en arrière, là, avec les monts de charge,
ouais,
où les bagages sont montés, puis d'autres choses. Évidemment, l'odeur n'était pas extraordinaire, c'était pas
l'idéal.
Extrêmement propre. Mmh. Et il fallait être accompagné de quelqu'un de la gare. Et un an plus tard, la gare de train était 100% accessible. On pouvait entrer à partir de la rue pour descendre jusqu'au quai des trains. C'était parfait, on pouvait se déplacer comme si de rien n'était. Donc, en un an, ils ont fait beaucoup de travail. Aussi, aux Jeux paralympiques d'Athènes, donc, ils ont construit un funiculaire pour monter sur l'Acropole. Donc, ça, c'était extraordinaire, là, comme être capable de voir ces sites archéologiques-là. Ils ont aussi adapté plusieurs trams de rampes de métro à Athènes. Et aussi aux Jeux paralympiques de Pékin, ils ont rendu accessible une partie du mur de Chine, donc la muraille de Chine. Donc, tous des endroits qui sont assez spéciaux là, au niveau touristique. Et puis maintenant, ben, les personnes peuvent profiter de ces activités-là à cause de la tenue de Jeux olympiques ou de Jeux paralympiques. C'est pour une des choses que j'aimerais bien que Montréal accueille une autre fois les Jeux olympiques pour que la ville devienne plus accessible. Bon, toutes les stations de métro ne sont présentement pas accessibles. Peut-être que si on avait des Jeux olympiques ou autres grands événements comme ça, on serait plus chanceux et on pourrait se promener plus facilement en métro. Donc, c'est pour ça que j'aime bien les Jeux paralympiques. Ça aide la cause de toutes les personnes qui ont un handicap.
Bien, je comprends, parce que ces changements-là, ces adaptations-là rendent l'environnement encore plus accessible et c'est de façon pérenne, là, ça dure.
Oui, c'est ça. C'est permanent, là, donc ouais. C'est extraordinaire.
Et en autre sujet, cette fois, vous faites un retour sur un important tournoi de para-hockey.
Oui, bien, si vous avez lu la presse hier, il y avait un article de Rose Aimée Autonne Morin qui parlait d'une maman
Autonne
qui s'appelle
T. Morin.
Pardon?
Rose Aimée Autonne T. Morin.
T. Morin, oui, j'ai oublié le T, je suis vraiment désolé. Donc, elle parle de Alice Tanguay qui est une maman de 48 ans qui a la sclérose en plaques depuis un an et a découvert le para-hockey. Quand elle était jeune, elle aimait bien jouer au hockey là, avec ses frères, mais en grandissant, il n'y avait pas de hockey féminin à laquelle elle pouvait participer. Donc, la chance de... Je vais dire la chance, peut-être pas, mais le bon côté de la sclérose en plaques, ça lui a permis de connaître le para-hockey, de retourner vers ses amours du hockey. Elle a pu jouer au hockey, ben, para-hockey, donc un sport avec une luge là où elle peut se déplacer avec des bâtons qui ont des pics pour sur la glace pour avancer plus vite. Et il y a quelques semaines, elle a été invitée à participer à un tournoi qui est organisé par la Ligue nationale de hockey et la ville de le club de Montréal a été sponsorisé par les Canadiens de Montréal. Et donc, elle a participé au tournoi avec une équipe féminine. C'était la deuxième équipe qui représentait les Canadiens de Montréal. La première équipe a gagné la médaille d'argent dans le groupe 1. Et l'équipe féminine dont Mme Tanguay a participé était dans le groupe 5. Et on battu les Kraken de Seattle dans cette compétition, terminée en quatrième sur 5 places. Elle a adoré son expérience. Puis moi, ben, je trouvais ça très intéressant comme type de tournoi, vu que c'est organisé par la Ligue nationale de hockey et aussi les Islanders de New York qui sont basés à Long Island. Il y avait 16 équipes de la Ligue nationale qui étaient représentées et c'est un tournoi qui existe depuis une quinzaine d'années, donc c'est une belle expérience pour tous les participants.
Ah oui, alors si vous voulez lire l'article au complet, c'est Para-hockey Montréal, ce n'est pas pour les faibles de cœur et on voit l'équipe féminine du Canadien de Montréal qui a participé, comme vous le disiez, à la NHL Sled Classic plus tôt en décembre, un article, on le rappelle, de Rose Aimée Autonne T. Morin. Tout un nom, mais une fois qu'on l'a dit, on le retient.
Oui, puis il y a une semaine et demie, elle a fait un bel article aussi sur le CIVA, une organisation qui fait beaucoup de loisirs pour personnes handicapées à Montréal.
Oui, on la suit. Merci beaucoup, Dominique. Bonne journée.
Merci, au revoir.
À bientôt.
À bientôt.
Juste pour voir, sans la preuve. bailarina, DJ dos amores, se joga na rima. O seu perfume é a sensação ao é, movimentando a cabeça na ponta do pé. O sol tá raiando, sua sonoridade e sabor vanilla.
C'était la chanson « Balance » de Vanille avec Flavia Coelho.
C'est l'heure de la chronique psychologie sociale avec Roxane de la Sablonnière, professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être et cofondatrice du projet Intercom. Elle est au bout du fil aujourd'hui. Bonjour Roxane.
Bonjour Hélène.
Alors, votre sujet aujourd'hui, l'effet spectateur. Pourquoi n'intervient-on pas toujours face à l'urgence?
Oui, j'ai préparé cette chronique avec Gabriel Perrault, un étudiant au baccalauréat en psychologie à l'Université de Montréal. Puis, je me suis intéressée à ce sujet parce que au mois d'août 2025, une vidéo virale qui a circulé sur Internet qui montrait l'agression d'Irina Zaratska, une réfugiée ukrainienne dans un tramway à Charlotte, en Caroline du Nord. Sur les images, on voit un homme assis en arrière d'elle. Il se lève brusquement et la poignarde à deux reprises au cou. D'abord, elle est surprise. Elle porte instinctivement la main à sa blessure sans réaliser immédiatement que c'était très grave la situation et elle s'est effondrée. Il y a plusieurs passagers qui ont assisté à la scène. Aucun n'intervient. C'est juste après sa chute que certains témoins réagissent. Il était déjà trop tard. Cet événement n'est pas isolé. Au fil de l'histoire, il y a eu plusieurs situations similaires qui ont été observées. Comment expliquer que, face à une urgence, il y a tant de personnes qui choisissent de ne rien faire? Donc, en psychologie sociale, c'est un paradoxe qui s'appelle l'effet spectateur. Dans cette chronique, bien, je voulais explorer ce concept. C'est un des concepts, en fait, qui m'a attirée vers la psychologie sociale parce que j'arrivais pas à comprendre.
Alors, justement, essayons de comprendre avec vous, Roxane, comment ce concept est-il apparu dans l'histoire de la psychologie sociale? Qu'est-ce que c'est exactement l'effet spectateur?
C'est un phénomène qui a été bien documenté. Ça désigne une tendance des individus à ne pas porter assistance lors d'une urgence, lorsqu'ils se retrouvent en présence de d'autres témoins. Donc, ça a émergé après un drame similaire à celui que je vous ai raconté, mais c'était en 1964 à New York. C'était le meurtre d'une jeune fille, Kitty Genovese. Et selon les premiers récits médiatiques, il y avait 38 personnes qui auraient observé la scène sans intervenir pendant plus de 30 minutes. Bon, ce chiffre-là a été nuancé par la suite, mais l'affaire a vraiment marqué l'opinion publique puis a poussé deux chercheurs, John Darley et Bid Latané, à étudier scientifiquement ce comportement. Donc, dans leurs recherches qu'ils ont publiées en 1968, donc ça fait un peu de temps de ça, ils s'appuient sur une expérience scientifique qui est devenue une classique dans le domaine de la psychologie sociale. Les chercheurs ont invité des étudiantes à participer à une discussion par interphone. Chacun était isolé dans une pièce. Puis pendant l'échange, il y a un des participants qui simulait une crise d'épilepsie, faisant croire qu'il avait besoin d'une aide d'urgence. Donc, les chercheurs ont manipulé aussi le nombre perçu de témoins. Donc, certains étudiants qui étaient au bout du fil, comme on dit, de l'interphone, croyaient être seuls avec la victime. D'autres pensaient faire partie d'un groupe de 3 ou alors d'un groupe de 6 personnes. Au total, il y a 79 personnes qui ont été testées dans cette expérience. Les résultats ont été frappants. Plus les participants pensaient être nombreux, plus ils tardaient à réagir et moins ils étaient enclins à intervenir. Donc, Par exemple, 85 % de ceux qui croyaient être seuls ont rapidement donné l'alerte, donc ils ont fait une action là, pour aider la personne, contre seulement 31 % dans le groupe de personnes où ils étaient 6. Donc, ça confirme l'hypothèse de la diffusion de la responsabilité.
Ouais.
C'est-à-dire que la présence de d'autres témoins dilue le sentiment d'être personnellement responsable d'agir.
Quels sont les principaux mécanismes psychologiques qui expliquent l'effet spectateur, Roxane?
Ces chercheurs ont montré que la présence de plusieurs témoins tend à réduire la probabilité d'intervention. Ça s'explique par plusieurs mécanismes psychologiques. Donc, un mécanisme psychologique, c'est cognitif, puis ça influence nos comportements, nos perceptions, nos jugements. Donc, il y en a trois principaux qui ont été étudiés. Le premier, c'est la diffusion de la responsabilité. Plus il y a de témoins, moins on a le sentiment de responsabilité qui est important. Donc, la responsabilité se dilue entre toutes les personnes présentes. C'est comme si chacun devenait inactif. Donc, l'inaction devient moins coûteuse sur le plan psychologique. Parce qu'on se dit, quelqu'un d'autre va s'en charger. Le deuxième mécanisme, c'est l'appréhension de l'évaluation. Donc, lorsqu'une personne veut intervenir, mais elle sait qu'elle va s'exposer au regard des autres autour d'elle. Donc, elle peut aussi craindre de mal juger la situation, d'intervenir d'une façon qui n'est pas efficace ou même de paraître ridicule. Puis c'est cette peur qui va freiner souvent son passage à l'action. Donc, dans cette situation, on pourrait se dire, et si je faisais une erreur de jugement? Puis finalement, le troisième mécanisme, c'est l'influence sociale. Donc, lorsqu'une situation n'est pas tout à fait claire, les témoins observent les réactions des autres pour savoir comment réagir. Quand il y a une situation qui se passe, parfois on regarde autour de nous comment les autres vont agir avant qu'on agisse nous personnellement. Donc, si personne ne bouge dans une situation urgente, on se dit que c'est peut-être parce que c'est pas si urgent que ça, vu que personne ne fait rien. Donc, ça s'appelle l'ignorance plurielle. Donc, tout le monde devient ignorant d'une certaine façon. Donc, autrement dit, tout le monde pense que les autres savent mieux quoi faire, mais personne n'agit. Donc, on s'imagine une alarme d'incendie dans un centre d'achat, par exemple. Si personne ne bouge, on pourrait se dire, ça doit être une fausse alerte, parce qu'on observe le comportement des autres. Donc, l'influence sociale, l'ignorance plurielle, apparaissent principalement lorsque la situation est ambiguë. À l'inverse, on peut s'imaginer que dans une situation où le danger est imminent, par exemple un gros incendie, on voit les flammes, mais là, les gens vont agir sans nécessairement regarder ce que les gens font autour d'eux. Donc, ces processus psychologiques montrent que l'inaction des témoins peut être expliquée par des dynamiques sociales, nos relations avec les autres et cognitifs aussi qui vont freiner le passage à l'action.
Est-ce que l'effet spectateur s'applique dans toutes les situations ou ça existe, où il existe des conditions qui permettent d'y échapper?
Oui, exactement. Il y a des conditions qui permettent d'atténuer l'effet spectateur, même si c'est un effet qui est très fort, qui a été démontré souvent. Il y a plusieurs facteurs qui permettent de l'atténuer. Il y a une étude allemande en 2006 par le professeur Fischer qui a montré que lorsque le danger est évident, que la situation est claire, les gens vont moins hésiter à agir. Donc, ils vont perdre moins de temps à observer les autres, observer les réactions. C'est vraiment le contraire de l'ambiguïté de la situation que j'ai évoquée un peu plus tôt. Puis, ça réfère à une situation où les individus sont plus susceptibles d'être spectateurs. Donc, quand c'est ambigu, on est plus spectateur, on regarde, on observe, on prend notre temps. Mais quand c'est très clair qu'il y a un danger, que c'est très grave, on va agir plus rapidement. L'effet spectateur va aussi s'affaiblir lorsqu'une personne se sent directement concernée ou bien compétente pour agir. Par exemple, un médecin qui aurait été formé ou une personne formée en premiers soins. Donc, si il y a une situation qui se passe, cette personne-là, elle est habituée d'agir ainsi, donc elle va passer plus rapidement à l'action. Un autre facteur, c'est aussi lorsque les témoins se connaissent. On a peur de se faire juger, donc la responsabilité devient collective, puis ça favorise aussi une réponse plus rapide. Donc, si c'est un groupe de personnes qui se connaissent, ils vont souvent agir plus rapidement. Il y a une étude qui a été menée par Lips et ses collègues en 2024. Ils ont analysé 81 agressions filmées par des caméras de surveillance à Copenhague, impliquant 764 témoins. Puis les chercheurs ont montré que au moins un témoin est intervenu dans 85% des cas lors de ces analyses de vidéos. Donc, en d'autres mots, dans 69 des 81 vidéos, une personne est intervenue dans le but de calmer la situation. Mais l'effet spectateur demeure. Plus le nombre de témoins augmente, moins chaque individu avait des chances d'agir. Puis même lorsque le danger était évident, la diffusion de la responsabilité demeurait quand même présente. Donc, si 20 personnes assistent à une agression et qu'une seule intervient, bien, les 19 autres risquent de rester plus passives, donc de ne pas passer à l'action. Et tous ces résultats viennent confirmer qu'il existe des conditions pour atténuer l'effet spectateur, mais ça ne va jamais totalement l'éliminer. Puis l'étude de l'IPS confirme aussi l'importance du lien social, c'est-à-dire que les témoins qui connaissent la victime ou l'agresseur sont plus enclins à agir ou à intervenir jusqu'à 20 fois plus que quand c'est des étrangers. Donc, même si certaines conditions ont la capacité de pousser les gens à agir, il reste que l'effet spectateur demeure un phénomène bien réel.
De ce que je comprends, il suffit parfois d'un simple geste pour changer les choses et que le frein qu'on s'impose est psychologique.
Oui, en effet. Puis le simple fait de comprendre ces mécanismes-là peut nous aider à surmonter notre peur d'agir pour ne pas rester spectateur lorsqu'il se passe quelque chose autour de nous.
En tout cas, c'est une chronique qui fait réfléchir sur nous et la société. Un grand merci, Roxane, pour toutes ces chroniques tout au long de la saison. Et on va se retrouver en janvier.
Merci. Je vous souhaite des joyeuses fêtes et une merveilleuse année 2026 à tout le monde.
Pareillement. Au plaisir.
Merci.
Un extrait d'un album, un merveilleux album, la musique de Vince Guaraldi, A Charlie Brown Christmas. L'album a 60 ans cette année, oui, puisqu'il s'est imposé en 1965. Alors, T'étais où, Serge? C'est un documentaire que je vous recommande, que j'ai eu la chance de visionner. Un documentaire qui propose une plongée intime dans la vie et la carrière du comédien Serge Thériault, réalisé avec beaucoup de doigté par Catherine Proulx, qui l'a rencontré, qui scénarise aussi ce documentaire, qui a fait les entrevues avec Serge Thériault, qui a été très généreux, qui se donne dans ce documentaire-là. Lui qui a marqué plusieurs générations dans des œuvres emblématiques comme Paul et Paul, La Petite Vie, Les Boys, Garbar Blues, Ding et Dong. C'est un comédien admiré, admirable. Il y a plusieurs personnes qui font partie de son entourage qui lui rendent hommage avec beaucoup, beaucoup d'amour et de sincérité. Je pense à Claude Meunier, à Marc Messier, à Guylaine Tremblay. Alors, si vous êtes abonné à Tout TV Extra, à l'extra de Tout TV, vous allez pouvoir découvrir ce documentaire T'es où, Serge, demain, vendredi 12 décembre, et il sera diffusé plus tard, on y reviendra certainement, en mars 2026, le samedi 14 mars 2026 sur Ici Télé et en simultané sur Ici Première et en rattrapage sur Radio-Canada. Audio. T'étais où, Serge, de Catherine Proulx, à voir absolument, où Serge Thériault parle aussi de sa vie familiale, sa mère qui, comme lui, était atteinte d'un trouble qui n'avait pas été diagnostiqué à l'époque, mais lui, il le sait, il est bipolaire et ça rend sa vie erratique. Il ne s'ennuie pas vraiment du métier, malgré qu'il aime jouer à la folie, il aime jouer passionnément, mais il aime aussi sa solitude. Serge Thériault, il a maintenant 77 ans. Il est dans nos cœurs. Il le sera toujours. C'est tout. Passez une belle fin de semaine. Ici Hélène Denis, on se retrouve mardi. C'est Denis Martin-Chabot qui sera là lundi.